Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on écoute la deuxième partie du documentaire « Mémoire de Burenwald » de Claire Latzag. Près de 90 ans après la création du camp de Burenwald, et alors que les voix des survivantes et survivants seront bientôt toutes éteintes, comment continuer à transmettre la mémoire de ce camp de concentration lorsqu'on en est simple dépositaire et non témoin direct ? Des élèves du lycée Maurice Utriot de Stain sont allés à la rencontre de descendants de prisonniers de Burenwald afin de s'interroger sur la transmission de l'histoire, individuelle et collective.
C'est bon ?
Können Sie sich bitte vorstellen? Ich heiße Gisela Prescott. Mein Vater war ehemaliger Buchenwald-Häftling.
Je tiens à ce que tous les élèves qui apprennent l'allemand aient l'occasion au moins une fois dans leur scolarité de découvrir un pays où on parle allemand. Sinon, je trouve que l'enseignement de l'allemand reste quelque chose de beaucoup trop hors sol. On leur dit d'apprendre l'allemand, ils le font, ils sont bien gentils, mais ils ne voient vraiment pas pourquoi.
À la première écoute, avec tous ces mots-clés-là, comment vous résumeriez ce que vous en avez compris ?
C'est une dame qui se présente et qui va évoquer l'histoire de son père parce que lui, il a été à Buchenwald.
Ce que j'ai compris, moi, c'est que son père, il a fait des grèves dans le domaine politique et il se fait arrêter.
Ok, il vient effectivement d'un milieu ouvrier et du coup, comme il était engagé dans le milieu politique, lesquels, à votre avis ?
Il était communiste.
On dit ça au micro ?
Il était communiste.
C'est bon pour la première partie ?
Aller ailleurs, parler allemand, c'est finalement le sens de mon métier pour moi. Mais le lier à un projet qui a du sens, c'est mieux.
Les filles, vous qui faites partie du projet, vous pouvez peut-être expliquer, Idriss.
En fait, la plupart du temps, c'est soit les grands-pères, soit les pères qui étaient dans les camps de concentration. Et c'est les petits-enfants ou les enfants qui nous disent comment l'histoire s'est transmise.
Et du coup, on a interrogé en Allemagne des descendants d'internés allemands au camp. Parce que c'est un camp qui était en priorité pensé pour les résistants communistes. Donc, au départ, plutôt pour les Allemands, hein, les opposants à Hitler qui est allemand. Ok, c'est bon, deuxième écoute.
Mémoire de Burenwald, un documentaire des terminales germanistes du lycée Maurice Utriot à Stain, accompagné de Pauline Blanchet et Claire Latzag.
J'ai envie de leur dire que oui, ça marche vraiment, il y a vraiment des gens qui parlent comme ça, que si on leur parle, ils répondent, et que, enfin, en fait, tout ce qu'ils ont appris, ça sert à quelque chose.
Épisode 4. Du côté des Allemands.
Bon, on va perdre la prof, là, faudrait avancer.
Il faut enlever tous les manteaux, tout ça, hein.
Ah oui.
Et bien voilà, rentrez.
Hallo.
Hallo. Ich heiße Hallo. Sandhya.
Bitte?
Sandhya.
Sandhya.
Yes.
Andrei.
Andrei.
Hallo.
Le 6 février 2023, nous avons rencontré Madame Gisela Plasgott à l'hôtel Louis Sicherhoff de Weimar.
Les quatre avec Gisela vont rester là, vont s'organiser.
Son père, Reinhold Plasgott, est né dans une famille d'ouvriers à Dresde en 1914. Il est arrêté en 1933 et est incarcéré au camp de redressement d'Ohrenstein. Il est libéré puis arrêté en juillet 1938 pour haute trahison et est envoyé à Buchenwald. Au camp, lui et ses amis réparaient des radios pour écouter illégalement les fréquences alliées.
Il a été chargé d'une mission par l'organisation clandestine des prisonniers. Pendant qu'il réparait les radios, il devait essayer d'écouter les nouvelles, ce qui était interdit. Ils étaient trois. Ils se donnaient rendez-vous à l'atelier le soir pour écouter une certaine fréquence radio. L'un d'eux restait dehors à monter la garde. Si les SS venaient, Il sifflait pour avertir les autres.
Da haben sie schnell das Gerät auseinandergebaut.
Ils devaient alors démonter le poste à toute vitesse.
Ils se sont fait prendre, mais avaient eu le temps de tout démonter.
Der SS-Mann hat das natürlich nicht geglaubt.
Le SS ne l'a pas cru. Il a fouillé tout l'atelier de fond en comble pour comprendre ce qui se tramait.
Haben aber nichts gefunden.
Mais il n'a rien trouvé, car les prisonniers s'y connaissaient plus que lui. En fait, il était même interdit de se retrouver là, ensemble, le soir. Alors ils ont cru que leur dernière heure avait sonné. Mais le SS, responsable, n'a pas fait de rapport.
Der SS-Mann, weil, hätte das gemeldet, wäre rausgekommen.
Sinon, on aurait su que les prisonniers avaient un atelier de réparation de radio clandestin. Et donc le SS aurait été puni.
Und hätte der SS-Mann Strafe bekommen.
Ça a été leur chance, et c'est comme ça qu'ils ont survécu à cette situation délicate.
Gefährliche Situation überlebt.
Aujourd'hui, une photo d'une réplique du poste de radio clandestin se trouve au musée du camp.
Vous, quand vous êtes chez Tchit, est-ce que vous en parliez à vos amis de tout ça ?
Là aussi, j'ai envie de dire, faut mettre dans le contexte.
Franca Günther.
J'ai grandi à Weimar, et Weimar, à l'époque, faisait partie de la RDA. L'Allemagne de l'Est. Et en RDA, tous les élèves à 14 ans allaient visiter un ancien camp de concentration. Donc on avait la visite guidée avec un survivant qui nous expliquait souvent non seulement le contexte historique, mais aussi son vécu personnel. Évidemment, ça, quand on est face à quelqu'un qui dit « moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela », pour quelqu'un de 14 ans, voilà, on en parle, on en parle.
Ça c'est subjectif. S'il vous plaît. Bon, vous allez vous dire que je vous promène de cimetière en cimetière, vous auriez... Pas tout à fait tort, hein. On a traversé, cela dit, vous voyez que c'est pas tout à fait le même type de cimetière. Qu'est-ce que vous reconnaissez comme symbole directement ?
L'étoile.
L'étoile, ouais. De quelle couleur ?
Rouge.
L'étoile de qui ? L'étoile communiste, exactement. Quoi d'autre ? Comme symbole soviétique, qu'est-ce qu'on a ? Bah, approchez-vous, regardez le petit portail, par exemple. La fessie et le marteau. Ici, donc, on a un cimetière soviétique, et si vous prenez votre plan... Vous pouvez regarder, il y a la liste de tout ce qu'il y a à voir à Weimar. Il y a une chose qui n'apparaît pas, c'est le cimetière soviétique. Alors pourquoi ? Ici, on se trouve dans quelle partie de l'Allemagne ?
La partie de l'Ouest.
De l'Est. Hein, on est en ex-RDA. Donc pendant toute la période de la RDA, on a honoré la mémoire des soldats soviétiques tombés pendant la libération de Buchenwald et de la ville de Weimar. Comment s'appelle officiellement le pays dans lequel on se trouve ? La République fédérale d'Allemagne. Effectivement, nous sommes en RFA. Hein. La RDA n'existe plus, mais la RFA, elle existe encore. Elle a juste avalé la RDA, mais elle existe toujours. Donc, la mémoire du territoire où nous sommes a été également travaillée. Et donc, tout ce qui a un peu trop rapport au communisme, souvent on le passe un peu sous silence. C'est le cas pour ce petit cimetière soviétique. Bon, si vous voulez, on fait un petit tour à travers le cimetière, puis ensuite on traverse le parc.
Malgré leur expérience commune à Buchenwald, une fois la guerre terminée, les anciens détenus allemands ont connu des parcours différents. En RDA, pays appartenant au bloc soviétique, le passé de prisonniers politiques dans les camps a été glorifié par le régime. En revanche, en RFA, les communistes ont eu la vie dure, étant donné que le parti communiste, le KPD, a d'abord été sous haute surveillance avant d'être complètement interdit en 1956. Abdallah, Tony et moi, Louis, avons interviewé Reinhold Lohr au sujet de son père via vidéoconférence.
Ja, mein Vater ist 1910 geboren und er war zur Macht bei der Machtübertragung an Hitler war er 23 Jahre alt.
Reinhold Lohr est le fils de Erich Lohr. Il était membre du Parti communiste allemand et faisait des actions comme déchirer les affiches de la NSDAP et promouvoir le communisme.
Mon père a été le premier fois en 1933.
Il a été arrêté plusieurs fois par la police allemande. Il a été transféré au camp de Buchenwald alors qu'il avait purgé sa peine.
Aber als wir dann die Überstellung nach Buchenwald gegeben haben,
mais quand ils lui ont dit qu'il était transféré à Buchenwald, il n'a pas pu se retenir.
Da hab ich den Beamten
et il a mis son poing dans la figure du fonctionnaire qui était venu lui annoncer.
Mitten ins Gesicht gehauen.
Et cela, bien entendu, n'a pas joué en sa faveur. Et il a fait partie des rares prisonniers à arriver à Buchenwald menotté. C'est en septembre 39. Il est resté au camp jusqu'à sa libération le 11 avril 45.
Après la guerre, il est reparti vivre en Allemagne de l'Ouest où il a repris ses activités politiques. Il n'a pas eu le même vécu que ceux qui sont restés en RDA.
Überhaupt nicht, sondern ich habe das ja vorhin schon einmal kurz gesagt.
Il a même été emprisonné pour ses activités politiques.
Er hat ja in den 50er Jahren noch zweimal im Gefängnis gesessen.
Reinhold Lohr ne comprenait pas les raisons de ses arrestations. Son père ne lui parlait que des aspects positifs de son vécu dans les camps de concentration.
On se donne jusqu'à 30. Vous essayez de vous répartir les voix, d'accord? À 30. On voit ce que ça donne, on fait un premier essai.
Ah, madame, est-ce qu'il chante à plusieurs dans la vidéo
Dans la version de Tselan, il est seul. Il est seul, c'est lui qui fait les différentes voix.
C'est lui, madame.
Okay. Vas-y, attends. Non, c'est-à-dire, on s'entraîne vite fait, on fait. On lit.
Vitrema, c'est où? C'est froueux ou frueux?
C'est froueux. On dit milch.
Ouais.
Schwarze, milch, der frueux. Vertrinken Sie abends. Vertrinken Sie mittag, morgens. Vertrinken Sie nachts. Vertrinken und trinken.
Todesfuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends.
Wir trinken sie abends.
Wir trinken sie mittags und morgens. Wir trinken sie nachts. Wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete.
Dein goldenes Haar, Margarete.
Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz.
Todesfuge, Fugue de mort, par Paul Celan.
Et pourquoi il est important pour vous de transmettre l'histoire de votre grand-père?
Je ne transmets pas vraiment seulement la mémoire de mon grand-père.
Franca Günther.
Sinon, on ne ferait pas cette interview en français. En 1990, je suis allée en France et j'ai travaillé au nom du mémorial de Buchenwald sur la déportation des Français. Et c'était une autre histoire que j'ai découverte. Buchenwald était un endroit très international. J'ai entendu parler des déportés, que Buchenwald était pour eux la première fois qu'une Europe était née, un esprit européen était né. Bon, dans les conditions du camp, évidemment, bien sûr. Mais quand je parle de Buchenwald avec des gens, je ne dis jamais comment grand-père était à Buchenwald. C'est un détail familial. C'est pas l'essentiel, c'est pas le plus important. L'important, c'est ce qui s'est passé là. Avec cette internationalisation, c'est comment ils ont pu s'organiser pour survivre.
Alors, dans le camp, il y a une plaque commémorative avec inscrit dessus les nationalités des personnes détenues au camp. Et au milieu de la plaque, quand on pose notre main,
c'est chaud,
c'est à température du corps. Elle est maintenue à 37 degrés parce que tous les corps, peu importe l'origine, la couleur de peau... l'orientation sexuelle, les idées politiques, on a tous la même température corporelle. Et c'est pour ça que la plaque, elle est maintenue à 37 degrés, avec les nationalités des gens détenus, du coup.
Et est-ce que vous vous souvenez quelle nationalité il y avait? Est-ce qu'il y en a qui vous ont étonné?
Vietnamien, algérien, marocain, tunisien, sénégalais.
Cette dalle mémorielle,
Anne Essel,
est l'endroit où se font tous les rassemblements en mémoire des déportés de Buchenwald. Et les élèves ont découvert le nom des 54 pays d'où venaient les déportés du camp. Ils ont donc découvert là leurs propres origines, alors qu'ils ne se sentaient jusqu'à présent pas complètement concernés par cette histoire de nazis et d'Européens. Et nous nous sommes assez cérémonieusement engagés à défendre cette universalité qui, je pense, les touche particulièrement.
Und ich kann mich erinnern, als kleiner Junge war für mich ein ganz wichtiges Wort Friedensfreunde.
Reinhold Loch.
Je me souviens que quand j'étais enfant, il y avait un mot qui était très important pour moi. Friedensfreunde, les amis de la paix. C'était les anciens prisonniers de Buchenwald, les camarades du Parti communiste, des syndicats, etc. Ce mot m'accompagne depuis que je suis enfant. Si vous constatez des injustices, ne détournez pas le regard. Faites preuve de courage. Faites preuve de solidarité.
Tu vois quelque part la caméra.
C'est quoi périphérique système ? Oula. Ah, ça, c'est Franca, je pense.
Franca ?
Bonjour.
Ah, vous ne m'entendez pas ?
Oui, oui.
Merci beaucoup de nous consacrer un petit peu de temps ce matin.
Volontiers, avec plaisir. Enfin, avec plaisir, non, parce qu'on parle des choses déplaisantes. La situation politique en Thuringe, c'est déplaisant, forcément.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les derniers événements politiques ?
Voilà, donc en septembre 2024, le 2 septembre, ont eu lieu les élections pour élire les députés du Parlement de Thuringe. Ces élections ont fait beaucoup parler parce que c'était pour la première fois depuis 1933, hein, en fait, qu'un parti de l'extrême droite, en l'occurrence le parti Alternative für Deutschland, AfD, obtient la majorité des votes et dévance tous les autres partis démocratiques au Parlement de Thuringe. Donc c'était vraiment un tremblement de terre qui s'est passé en Thuringe le 2 septembre dernier. Quand on a eu les résultats en septembre, on aurait pu craindre que les fonds publics ne seraient plus attribués aux mémoriaux. Or, ce qui est quand même positif, c'est que dans cette région de Thuringe, les démocrates se sont mobilisés pour faire face à l'extrême droite. Si bien que nous avons, depuis le 12 décembre, un ministre-président qui est chrétien-démocrate, qui a été élu au premier tour avec la majorité absolue des voix.
Ben merci beaucoup, c'est très clair.
Ok, très bien. J'espère que ça vous servira à quelque chose. Sinon, on refait.
D'accord. Merci beaucoup.
Alors, si vous arrivez à voir, ça, c'est les déportés jetaient du wagon des petits mots sur la voie ferrée pour dire qu'ils partaient. En wagon, à destination inconnue, bon Beauchardet et Moral, remerciements aux cheminots, Compiègne, le 17 mai. Et au dos de ce petit mot, la liste des déportés en donnant l'adresse des autres. Prévenir famille, nous sommes des camarades, prisonniers de guerre. Vous voyez, ça m'émeut un peu.
Épisode 5. Ce qu'il nous reste.
Alors, ce que je vous demanderais, c'est d'être évidemment extrêmement précautionneux par rapport à ces documents. Donc, vous remettez bien les pochettes dans l'ordre. D'accord ? Bah, c'est parti, vous pouvez y aller, vous pouvez ouvrir la boîte.
Ils rapportaient pas beaucoup de choses, les gars. Hein. Ils n'avaient pas l'occasion.
Tu vois pas, c'est le suspense. Ces documents, ils sont plus vieux que toi et tes parents. Faut quand même profiter.
Oh, je vous...
Quand je suis arrivé, moi, en 1995, beaucoup de déportés étaient déjà morts. Et il en restait très peu qui pouvaient me raconter. Donc, quand on fait une recherche, il faut ouvrir ses oreilles, mais il faut prendre partout.
Assistance extérieure, BCRA, généralisée.
Grande question, est-ce qu'on peut être témoin de témoins ? Il y a une partie non transmissible
Il manque les mots. Alors comment transmettre ?
À notre retour de Weimar, nous avons recherché les traces que l'histoire de la déportation avait laissées chez nous, à Stein, avec l'aide du professeur d'histoire, Fabien Pontanier.
Alors, on vous a parlé un petit peu en histoire de ce système concentrationnaire très administratif, où on produit beaucoup de documents, où on liste énormément, et finalement, même s'ils ont beaucoup détruit, les Allemands, il y a beaucoup de documents qui ont été conservés, avec notamment beaucoup de cartes. On a des documents papier qui sont très nombreux, on a des lettres, des plans, des photographies très nombreuses, des cartes postales. Vous avez une diversité de documents qui est très importante.
Donc voilà un exemple de lettre.
Dominique Durand.
Je suis à Buchenwald depuis le 14 mai. Nous sommes très bien installés, mon cul, oui. Mais il est obligé de dire ça. S'il ne met pas, ça sera censuré, quoi. Voilà. Moi, je garde comme ça des choses que je trouve sur Pierre Durand. J'en trouve encore maintenant, hein. Par exemple, il passe 4 mois en prison où il est affreusement torturé. Il dit ça, affreusement torturé. Et mon père ne s'était pas lavé ni rasé pendant 4 mois. Donc il avait les cheveux longs, les ongles grands comme ça. Et j'ai un témoignage. Donc ce qu'il disait est vrai. C'est ça aussi mon boulot, c'est de vérifier.
Alors ça, c'est des photos. Je digresse.
Dominique Orlovski.
Georges Angéli, il était photographe de métier. Donc lui, il prenait les photos d'identité des déportés quand ils arrivaient. Mais il développait aussi les photos des SS, et donc il a aussi planqué des photos compromettantes, on veut dire, des SS. Et puis un jour, il a décidé, au péril de sa vie, d'aller faire des photos à l'intérieur du camp. Donc il a pris un appareil photo, c'est pas les nôtres, un clic-clouc, hein. C'est de l'argentique, il faut tourner la bobine et tout. Et il va avec un certain nombre de copains à lui. Donc, il y en a un, il met un journal devant. Il y en a 2 autres qui font semblant de se battre. Et pendant ce temps-là, il prend des photos. Et donc, il a pris 12 de photos du camp. D'accord ? Vous me dites si on veut faire pause ?
Achtung, nanette ! C'est ce que me disait ma belle-mère qui a été déportée à Ravensbrück. C'était les cris de ralliement quand la SS arrivait dans l'atelier où ils étaient obligés de travailler. Il y en a une qui criait « Achtung, nénette !»
Georges Beauchemin.
Votre belle-mère a-t-elle rapporté quelque chose ?
Non, elle n'a rien rapporté. D'abord parce qu'elle était dans un commando et qu'à la fin de la guerre, les Allemands, pour se débarrasser de tous les détenus et donc de tous les témoins de leurs exactions, ont lancé ce qu'on a appelé les Todesmarches, les marches de la mort, c'est-à-dire qu'ils vidaient les camps et ils mettaient les détenus en colonne à pied et ils les faisaient marcher jusqu'à ce qu'ils meurent. Et durant la marche, elle a réussi à s'évader avec une copine et ils ont survécu dans la forêt pendant une semaine en mangeant des racines et ce qu'ils trouvaient avant d'être libérés par l'armée rouge. Donc tout ce que j'ai d'elle, c'est les papiers qu'on lui a remis une fois revenu en France. Le bon avec lequel on lui permettait d'avoir 100 francs, au moins d'argent de poche. On lui donnait des vêtements, on lui donnait des aiguilles, du fil, 5 mètres de tissu pour qu'elle puisse se confectionner une robe, et etc. Et ses papiers d'enregistrement, et ensuite ses cartes de déporté. Et ce que j'ai d'elle, c'est un témoignage écrit sur sa résistance.
Quand j'étais enfant, j'avais sur un mur de ma chambre,
Franca Günther.
J'avais un tapis sur lequel j'avais accroché des choses qui étaient importantes dans ma vie d'époque. Et mon grand-père, il a voulu que j'accroche avec les choses qui me sont importantes un poème. C'était le chant des déportés de Buchenwald. C'était une chanson, une marche que les SS de Buchenwald avaient commandée aux détenus, aux déportés qui étaient là, pour la marche des commandos qui partaient le matin au travail. Et on ne comprendra jamais pourquoi les SS ont accepté les paroles, parce que la chanson se termine « Denn eines Tages sind wir frei », puisque un jour on sera libre.
Ça a donné beaucoup de force morale aux déportés pour survivre.
Vous m'entendez, vous ?
Oui, oui,
oui.
Totalement.
Ah, là, c'est beaucoup mieux. Donc, Madame Blanchet m'a dit qu'il y a des élèves qui avaient retrouvé des documents qui appartenaient à Stéphane Hessel.
On a retrouvé...
recommence la phrase, qu'on m'entendait parler en même temps.
Quand on a visité le musée à Buchenwald, dans une des vitrines, il y avait aussi une photo de Stéphane Hessel avec ses collègues, je pense. Et à côté, il y avait une petite feuille
déchirée
avec plein d'informations liées à Michel Boitel qu'il avait pris pour en fait les apprendre et reconstruire son identité.
Fin septembre 44, c'est-à-dire à un moment où on pensait que la guerre allait finir très vite.
Anne Hessel.
Il y avait 37 officiers qui sont arrivés, condamnés à mort. Et donc la résistance du camp a décidé de sauver 3 officiers et leur donner l'identité de gens qui étaient censés mourir du typhus assez rapidement. D'abord, il fallait convaincre le médecin SS Ding Schuller, qui dirigeait le pavillon du typhus, que s'il acceptait de faire cet échange d'identité, eh bien, les 3 officiers sauvés s'engageaient à porter témoignage de son implication dans un sauvetage de déportés. Et Ding Schuller a accepté. Pour réaliser leur hospitalisation, on leur faisait une injection de lait qui provoquait une fièvre énorme et qui permettait de les déclarer atteints du typhus. Et donc, mon père, Stéphane Hessel, il a pris l'identité d'un résistant, Michel Boitel, qui avait participé au sabotage de moteurs d'avion et donc avait été transféré à Buchenwald en punition de ces sabotages.
Oh, moi, je l'aime trop, Anne Hessel. En fait, moi, j'aime bien les personnes âgées, déjà de base. Et du coup, je leur parle, je parle beaucoup aux personnes âgées. Et,
je confirme.
Anne Hessel, elle m'a trop intéressée. Elle était trop intéressante, elle connaît plein de choses. On voyait qu'elle était touchée et ça rajoutait une... pas une vérité, parce qu'on sait que c'est vrai, mais ça nous... c'est réel, quoi.
Et qu'est-ce que ça... comment s'est passé votre retour ?
Bon, je sais pas, on a raconté à nos parents.
Bah moi, j'ai voulu raconter à ma mère, mais ma mère, elle a pas trop... Si elle m'a écouté, je lui ai raconté mon voyage et tout, mais quand je lui racontais vraiment les souffrances qu'ils ont vécues, bah elle a eu du mal à écouter.
Nous, on l'a vu. Elle, nous, on lui raconte. Nos parents, c'est pas pareil.
C'est comme nous quand on nous racontait avant d'aller au voyage.
C'est pas pareil.
Tu me stresses trop, arrête de m'interviewer.
Tu regardes pas ?
Ok, ouais. D'accord. Prise numéro 11. Toute l'année, nous avons travaillé sur les parcours de résistants venus de partout. Des Français, des Belges, des Autrichiens et même des Allemands. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux résistants stanois, à l'histoire de la résistance dans notre ville de Stain. C'est notre ancien professeur d'histoire de collège, M. Pontanier, qui va nous guider dans ce parcours mémoriel.
Vas-y, c'est bon. C'est bon.
Donc depuis plusieurs années, avec des élèves du collège, et puis à travers différents projets, on a commencé finalement à identifier un petit peu, à lister tous les stanois, stanoises, qui avaient été engagés dans la résistance et qui ont été déportés. Et aujourd'hui, on arrive à peu près à 37 ou 38 personnes. Essentiellement à Buchenwald, pour à peu près, je dirais, un quart. Et puis, pour les femmes, c'était le camp de Ravensbrück. Voilà. Et donc, cette mémoire, elle est présente dans la ville, à travers la toponymie, ou l'eudonymie, c'est-à-dire les noms des plaques de rue. Et justement, le petit parcours qu'on va faire, on va aller voir un petit peu la mémoire qui est présente dans notre ville.
Monsieur Pontanier, là-dessus, on va aller voir une pierre. Non, on va aller voir une plaque commémorative.
On y va ?
C'est où ?
C'est vers l'église, un petit peu après.
Appel en cours.
Je suis plus sonnée, tu sais.
À Stain, nous avons rencontré Stéphane Lopez.
La porte est ouverte.
Directeur de la résidence senior Allende.
Bonjour. Bonjour.
On peut vous aider ?
Nous avons rendez-vous avec Monsieur Lopez.
Ah, d'accord.
Et arrière-petit-fils d'André Carrez.
Mon arrière-grand-père, en fait, lui, il était prisonnier politique. Il a été conseiller municipal avant la guerre. Et après, bon, bah, il y a eu le gouvernement de Vichy, tout ça, bon, ils ont tous été destitués. Il a été emmené dans le sud de la France, dans des mines de sel. Et c'est ensuite, il a été déporté à Buchenwald. Donc là, il y a sa veste qui était vraiment bien... qui est restée bien... Et puis, il y a ses savates, les chaussures, voilà. Vous vous rendez compte à faire 40 km avec ça?
Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand tu vous as raconté ça pour la première fois?
Bah, j'étais jeune, donc je pense qu'on me le racontera aujourd'hui, j'aurais plus d'émotion. Enfin, surtout plus grand, en fait, on se met à sa place. Quand c'est arrivé, c'était en cas, bah, il avait 44 ans. Quand j'ai eu 44 ans, je me disais, oh là là, il a vécu ça. Donc je me suis rendu compte que à cette période, il était père de famille, il était loin de sa famille. Et toutes les angoisses qu'on peut avoir à ce moment-là, voilà, je les ai ressenties à ce moment-là. Et je regrette parce que c'est vrai que j'étais pas assez curieux à l'époque. Hein, donc vous, soyez curieux, hein, soyez curieux, soyez curieuse. Alors vous voyez, il y avait le petit triangle rouge qui indiquait que c'était un prisonnier politique. F français. D'ailleurs, je ne sais pas si je la garderai. Peut-être que je la donnerai dans un musée parce qu'à un moment donné, c'est dommage quoi. Voilà, il faut ça appartient à l'histoire après. Je pense que ça ne vous appartient plus.
Hey, mais les profs, je te dis, ils ont des trucs dans les pieds. Voilà. Ils marchent trop vite. Ils savent très bien que nous, les jeunes, on est à la traîne. Pourquoi ils marchent vite comme ça? Sana, j'avance parce que je dois interviewer Monsieur Pompon. Oh, désolé, je l'appelais Monsieur Pompon. Mais sauf que quand je l'avais en quatrième, on l'appelait comme ça. Du coup, bah voilà. On a fait un détour.
Ah, vous aviez... Non, là, on est... donc, là, c'est la rue Robertville, celle-là. D'accord. Et donc, normalement, vous aviez une plaque qui commémorait justement... Ah, je vais vous montrer si on a un petit peu d'ombre.
Et du coup, elle n'y est plus.
Je pense que tout ça, c'est neuf. Et je pense qu'ils ont profité pour enlever la plaque.
Disparition d'une plaque.
Tu vois, c'était marqué « Ici vécu Robertville, capitaine FTPF, donc franc-tireur partisan français, mort pour la France dans les bagnes nazis 1912-1945 ».
Je sais plus où elle est.
Et en fait, bah, y a beaucoup de plaques qui étaient présentes et qui, en fait, pour des raisons, généralement parce qu'elles ne sont pas entretenues, ils les enlèvent, mais en fait, elles ne sont jamais remises. Il y avait une rue pour un autre déporté de Stinf, de Genka. Enfin, lui n'a pas été déporté, il a été fusillé. Alors Genka, il gravitait autour du groupe Manoukian. Et en fait, vous aviez une plaque, et cette plaque, elle est tombée, parce qu'elle n'était pas entretenue. L'habitant l'a récupérée, et en fait, elle n'a jamais été récupérée. Même si là, on est sur la mémoire communiste, donc qui était très présente dans la ville, finalement, on voit bien aussi, aujourd'hui, que ça intéresse quand même de moins en moins. Ça fait partie de ces éléments, un petit peu, avec une mémoire qui s'efface aussi, quoi.
Et donc, mon père a pu survivre.
Anne Essel.
Par contre, Michel Boitel n'a pas été déclaré mort à Buchenwald, puisque c'est Stéphane Essel qui a été déclaré mort le 20 octobre 1944. Et donc, Michel Boitel était disparu, simplement disparu. Mais aussi bien Stéphane que Balachowski, que Kogon, qui faisaient partie de la résistance du camp, et ils se sont battus pour faire reconnaître à la mairie d'Amiens, lieu de résidence de Michel Boitel, son décès en tant que résistant. Et cette déclaration de mort pour la France à Buchenwald a été enregistrée à la mairie d'Amiens le 10 octobre 1946, le jour précis de ma naissance. Je suis donc d'une certaine manière la fille à la fois de Stéphane Essel et de Michel Boitel.
Beaucoup de ces dieux ont péri. C'est sur eux que pleurent les saules. Le grand Pan, l'amour, Jésus-Christ, sont bien morts. Et les chats miaulent. Dans la cour, je pleure à Paris. Apollinaire, la chanson du mal-aimé. Stéphane Essel, ô ma mémoire, la poésie, ma nécessité.
Mon père aurait souhaité que la mémoire de Michel Boitel soit mieux honorée. Nous en avons parlé avec les élèves qui étaient venus avec nous à Buchenwald. Et une dizaine d'élèves se sont mobilisés, alors qu'ils n'étaient plus lycéens, pour venir avec nous à Amiens pour essayer de voir comment nous pourrions obtenir une reconnaissance de Michel Boitel. Et finalement, on a obtenu la pose d'une plaque pour Michel Boitel sur l'immeuble où il avait vécu, le 8 mai 2024.
Avec
Issa et
Boitel, mais ça, je pense qu'elle le dira mieux que nous.
Nous,
on ne dit pas ça, non.
Ouais, parce que ça, on peut.
Ouais, non, on dit ce que vous avez retenu de cette enquête, etc. Genre, on prépare le discours, nous, oui. Notre ressenti par rapport à, oui. À tout ça. Okay.
En fait, je dis d'abord le lien entre Essel et Boitel. Et nous, on doit raconter pourquoi on est là, tu vois.
Michel Boitel, c'est d'abord une photo au cimetière de Gapen, hein, d'un jeune homme très. À l'allure très contemporaine, avec ses petites lunettes. Et ensuite, effectivement, c'est un héros anonyme, mais qu'il faut sortir de l'anonymat, parce que...
Parce que vous voyez, ça, c'est la liste des déportés de la Somme. Et Michel n'a jamais comparu. On n'a jamais entendu parler de Michel Boitel. Alors c'est pour ça qu'on voudrait le réhabiliter, dans un sens. Ça, c'est normal.
Et que on dit là... qu'on a compris l'importance de transmettre la mémoire, voilà. Etc. Okay.
Et que dans le musée, on a trouvé un petit papier avec des informations sur Michel Boitel. Parce que par exemple, quand tu cherches des trucs sur Google sur Michel Boitel, tu trouves rien. Il n'y a personne qui a parlé de lui, tu vois.
Il y a tant d'histoires comme ça qui sont passées sous silence. Lui, il a été donneur de vie. Par sa mort, il a donné la vie à quelqu'un, parce que franchement, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on doit aussi honorer sa mémoire.
Et ça, pour mon père, effectivement, il a eu du mal à nous en parler. Et je ne l'ai interrogé que très tard dans la vie, j'avais pas loin de 40 ans, quand j'ai été capable de lui dire « raconte-moi, raconte-moi Michel Boitel ». Tellement je savais que c'était le sujet douloureux.
Ok, je veux dire tout ça, je veux dire. Il faut qu'on dise qu'ils sont enthousiastes, qu'ils aiment transmettre.
Voilà. Et qu'on a créé un projet, enfin, on veut créer une podcast.
J'aime bien tes baskets avec
moi. On l'a créé. Il
y a encore du boulot.
On n'entend que moi derrière en plus à chaque fois.
Épisode 6. Soyons curieux.
Michel Boitel n'a pas pu transmettre son expérience puisqu'il est mort à Buchenwald. Mais son destin est lié à celui de Stéphane Essel et aujourd'hui, il est temps de lui rendre hommage.
C'est la mission que se sont donnés Gisèle Cossette et Laurent Lopez. Anne et Celle les a rejoints dans cette démarche.
Voilà.
Vous présentez ici.
Oui, bah, je suis Gisèle Cossette, donc née en 1934. Alors, je suis entrée à la Fédération des déportés parce que j'ai épousé un déporté. Autrement, je ne savais pas ce que c'était que la déportation. Et je suis entrée en 1968. Et puis, à la mort de mon mari qui était président, j'ai pris la présidence en 2008. Alors, deux personnes sont venues me voir parce que, savoir, ils n'avaient rien sur Michel Boitel, si je pouvais trouver dans mes archives quelque chose. J'ai rien trouvé. Michel Boitel n'a pas été répertorié dans les déportés réentrants. On ne sait pas pourquoi. Alors, voilà, j'ai trouvé ça. Vous pouvez le lire si vous voulez. C'était très succinct. Boitel Michel. Alors j'ai eu son numéro d'immatriculation 81626. J'ai eu qu'il était né le 18-6-1923 à Amiens 80, qu'il était allé en commando à Buchenwald, qu'il était décédé, alors il y a un point d'interrogation, 10-1944, Buchenwald. Donc j'ai commencé à établir un dossier. Et nous avons transmis ça en 2012 à la municipalité d'Amiens en demandant qu'il y ait soit une rue, une plaque, un square. Pas suivi du tout, aucun effet. Bon, donc j'ai laissé tomber. Puis voilà qu'un jour, 20 novembre 2022, ben, je prends le courrier Picard et il y avait ça.
Michel Boitel, celui qui a sauvé la vie du résistant Stéphane Essel. Depuis le mois de mai 2022, Laurent Lopez et Marc Tondelier enquêtent sur le parcours de Michel Boitel. Ce jeune homme, mort du typhus en déportation, a permis à un autre déporté de survivre, le célèbre Stéphane Essel. Alexandra Mauviel, courrier Picard, 20 novembre 2022.
Quand j'ai vu ça, j'ai pris un bottin, j'ai téléphoné, j'ai dit « Vous êtes Laurent Lopez ?» Oui. Ben, je dis « Monsieur, si vous voulez, j'ai un dossier complet, je vous le donne. »
Bon, tout le monde est là ? Oui. Alors, Paris-Bordeaux-Le Mans. On disait quand je faisais de la radio, du temps de ma jeunesse.
Pourriez-vous vous présenter ?
Alors, je m'appelle Laurent Lopez à Scharfstein. Je suis né le 8 avril 1961 à Paris 11e. Et je suis, depuis peu, picard d'adoption. Nous vivons dans un petit village qui s'appelle Gapen depuis 2005. Et depuis 2005, j'essaye d'aller le plus souvent possible aux commémorations, que ce soit le 8 mai, le 11 novembre. Bon. Il y a un an exactement, quasiment jour pour jour, le 8 mai dernier, alors qu'on lit chaque année, chaque fois qu'on s'y retrouve, le nom des disparus de la guerre de 14-18, de la guerre de 39-45 et les morts civiles. Et je vois tout d'un coup sur le monument aux morts, Michel Boitel, entre parenthèses, déporté. Bon. Et donc je commence à poser la question aux anciens du village en leur disant « Mais enfin, ce Michel Boitel, pourquoi a-t-il été déporté ?» Personne n'avait connaissance de la raison de sa déportation. Tout le monde avait oublié même son existence. Et donc, de là, nous avons commencé avec un jeune du village à enquêter sur ce Michel Boitel, savoir pourquoi il avait été déporté et quel était un peu son parcours.
Alors, vous me présenter et me dire en quoi vous avez participé à ce projet.
Alors, Marc Tondelier, donc... Moi, ça a principalement été de la recherche internet. Donc à chaque fois qu'en fait je faisais une recherche, je découvrais soit un lieu, soit une date. Et ensuite j'appelais Laurent, je lui donnais des éléments nouveaux, lui m'en donnait. Et petit à petit, on arrivait à se recroiser, enfin, mettre un peu en lumière tout ça.
Bonjour. C'est gentil d'être venu. Bonjour. Oh, avec leur truc, on est à moitié.
Parce que c'est le preneur de son... Allez, venez.
On a pris un taxi, j'ai pas l'habitude de prendre des taxis.
Ça va, j'avais un petit peu le trek parce que quand même il y avait un petit peu de monde.
Je trouvais que c'était en petit comité.
Mais après ça va, franchement ça va. Je sais pas, les gens ils sont bienveillants quand même.
Quoi,
C'était l'adjoint, enfin, l'adjoint du maire.
Ouais,
mais il était bien son discours, moi j'ai trouvé.
Il faudrait maintenant que vous veniez tous voir M. Jardet et le saluer. C'est le représentant de la mairie.
J'ai beaucoup aimé quand on a chanté tous ensemble le chant des marais.
De détresse où nous devons sans cesse
piocher, piocher.
Guillaume, il faut l'escabeau.
Maintenant, ils ont leur bac, ils sont tous dans des circuits post-bac et ils continuent à venir avec nous cultiver cette mémoire si importante de la résistance face aux extrémismes.
Et qui reviennent.
Et qui reviennent, et d'où la nécessité absolument de continuer à être curieux, comme ils le sont, et obstinés dans leurs engagements, comme ils le sont également. Et donc, voilà. Moi, je viens avec eux, mais un peu ébloui par leur parcours.
Mais du coup, M. Boitel, c'était un prisonnier politique ?
Non, c'était un STO.
Gisèle Cosette.
C'est comme il était né en 23, tous les gens de la classe 23 ont été obligatoirement déportés en Allemagne. Les Allemands étaient partis sur le front russe. Ils ont donc fait venir tous les jeunes gens de 20 ans qui étaient susceptibles de travailler. Alors, Michel Boitel a été certainement travaillé dans une usine. Certainement qu'il a dû faire du sabotage, ou alors est-ce qu'il s'est évadé, je ne sais pas. En tout cas, il a été repris et il a été mis à Buchenwald. À Buchenwald, il n'y est pas resté longtemps, il n'y est resté qu'un mois, car il a attrapé le typhus et il est mort du typhus. C'est à cette date que son identité sera attribuée à Stéphane Hissel par la résistance du camp, car celui-ci était condamné à mort par la Gestapo avec ses 36 camarades officiers anglais, canadiens, français et belges. Sur ces 37 déportés, il y eut 6 survivants. Alors, si vous voulez bien lire le machin, parce que c'est pas très long, mais il est très intéressant, j'ai trouvé.
D'accord. La date du 6 août 1944 marque le départ du
24e et dernier transport de détenus classés NN vers le KL Natzweiler. Même si la date de déportation est tardive, le taux de mortalité de ce transport est suffisamment élevé pour constater que, dès la fin 1944, les conditions de détention des déportés deviennent de plus en plus difficiles dans tous les camps.
Alors, Stéphane Hessel est parmi les 6 survivants de ce transport. Michel Boitel fut incinéré à Buchenwald sous le nom de Stéphane Hessel, matricule 10033.
C'est ça qui avait été pour mon père l'événement le plus terrible. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, il interrogeait Michel Boitel.
Boitel Michel, étudiant, matricule F81626,
mourant,
livré le 17 septembre 1944,
pour que le changement d'identité soit vraisemblable.
Né le 18 juin 1923 à Amiens, département de la Somme.
Les Allemands risquaient de vérifier que c'était bien Hessel qui était mort.
Célibataire.
Et que Boitel était bien Boitel.
Religion catholique.
Et Boitel savait ce qui se passait. Mais mon père a eu l'impression de lui retirer la vie.
Domicile Amiens, 305 route Abbeville. Père Aubert Boitel, mère Germaine Boitel, née Labitte.
Non, mais ne le dis pas, non, on a dit qu'on laissait tomber. Ah, on n'est pas sûr okay. En plus si c'est ça ou pas.
Ok, bon.
Sa maman a changé de nom. Je dis, ah bon ?
Laurent Lopez.
Elle s'appelait, alors tenez-vous bien, Germaine Labitte. Moi, je me dis, Gisèle Cosette, elle doit confondre. Je la crois pas quand elle nous donne cette information. Je la crois pas. Je dis, c'est pas possible.
Comment dire ? L'acte de naissance de Michel Boitel, dans la marge, il y avait quelque chose qui était inscrit. Et c'était par ordonnance du président du tribunal civil de Saint-Paul-sur-Ternoise, Pas-de-Calais, du 23 juin 1938, l'acte d'état civil de Michel a été rectifié. Le nom de Labitte a été remplacé par celui de Herschin. Moi, je pense qu'il y a une chose, parce que quand on est directrice d'école, parce qu'elle est devenue directrice d'école, s'appelait Madame Labitte. Vous connaissez comme moi, vous, les petites jeunes, là, hein, ça ne devait pas être drôle. Hein.
Et en fait, c'est quand j'ai eu Anne et celle qui m'a envoyé la petite photo du petit papier écrit de la main de Stéphane Hessel. Et là, je me dis, bah, ça y est, voilà, on a des morceaux du puzzle qui se complètent.
Quand mon père est rentré de déportation,
Anne Hessel,
il a essayé au retour de la guerre de joindre la famille de Michel Boitel et il a été mal reçu. Et il l'a très bien compris, venant dire « ben voilà, Michel est mort et grâce à sa mort je suis vivant », c'est difficile pour une mère d'entendre ça et de l'entendre sereinement. Il a eu un contact avec une sœur de Michel Boitel, qui a été un contact chaleureux et qui l'a mis en paix. Mais il restait quelque chose d'inachevé. Et en particulier, son plus jeune fils, il lui a donné le prénom de Michel. Il s'appelle Michel Hessel. Et Michel Hessel a toujours été interpellé par ce don de ce prénom. Stéphane, comment vous dire, était très elliptique sur ce qui touchait à sa propre psyché. Donc il a dit non, non, aucun rapport, alors que le rapport est évident. Et Michel, mon frère, est resté dans un désarroi, dans une question à laquelle il n'a pas eu de réponse.
Avant de passer la parole à deux des anciens élèves de terminale qui sont venus spécialement de la région parisienne aujourd'hui avec leurs camarades, je souhaiterais que l'on ait, durant cette cérémonie, une pensée pour Germaine Herschin, la mère de Michel Boitel, qui s'est battue pour obtenir en 1963 que son fils soit reconnu mort pour la France.
Laurent Lopez, il était vachement sympa, vachement ouvert.
Déjà, je trouve qu'il parle bien.
Souriant, chapeau...
Son discours était hyper intéressant. Et t'as vu ?
Tout en blanc.
On a écouté son discours du début à la fin. Genre, il est... quand il parle, t'as envie de l'écouter. Ouais, grave.
Et Laurent Lopez est un homme qui a deux qualités que je vénère. Il est à la fois curieux et obstiné.
Andrei et Sana, si vous voulez bien venir.
Bonjour, je m'appelle Andrei et je suis accompagné de ma collègue Sana et de mes autres collègues qui ont participé à ce projet. Notre projet consiste à interviewer des descendants des déportés, dont Madame Anne Hessel, qui a été la première interviewée dans ce projet et qui nous a permis d'en savoir plus sur Stéphane Hessel, mais aussi sur Michel Boitel.
Moi c'est Sana et à la base j'étais un peu réticente face à ce projet, mais j'ai quand même voulu tester. Et aujourd'hui c'est la concrétisation entre guillemets de notre projet de transmission de mémoire, parce qu'en posant cette plaque on rend hommage à un homme longtemps oublié de l'histoire.
Voilà. Merci. Anne, si tu veux bien venir prendre la parole.
Donc en septembre on a fait une interview et on pensait que ça allait s'arrêter là. Que ça allait s'arrêter là, oui. Et finalement ça continue.
Je vous en prie.
C'était c'est ça en fait. En plus c'était inimaginable.
Ils ont pris en main l'histoire de Michel Boitel, l'histoire de cette double résistance qui, pour nous, pour moi, pour mes frères, correspond à une double paternité. En fait, si Michel n'avait pas donné sa vie à Stéphane, nous ne serions pas là, tout simplement. Et nous sommes issus de ces deux vies grâce au fait que dans ce camp de Buchenwald, malgré les conditions dans lesquelles les prisonniers vivaient, la résistance du camp a pu fonctionner formidablement. Et donc, voilà, merci à vous tous, merci à eux, merci à leurs professeurs de faire que la vie de Michel Boitel et de Stéphane Hessel puisse résonner encore et donner encore cet élan fondamental qui nous permet de vivre ensemble. Merci.
Alors, on va dévoiler la plaque. Ensuite, je ne sais pas si vous avez tous les paroles du chant des marais. Et donc, nous allons essayer d'entonner le chant des marais en mémoire de tous les déportés.
Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens...
Laurent Lopez.
...qui ont des histoires familiales liées à la grande histoire. Et surtout, alors ne tardez pas à poser les questions à ceux qui ont vécu des événements. Parce qu'une fois qu'ils ont disparu, on ne peut que regretter de ne pas avoir posé des questions. Et il n'y a pas de mauvaises questions concernant la grande histoire. Et surtout quand elle touche nos petites histoires.
Et ce que ça m'a donné envie de faire, c'est de savoir l'histoire de ma famille. Parce qu'on n'en parle pas forcément, je ne suis pas d'origine française. Si je suis bien en France, c'est qu'il y a eu un chemin de l'Inde en France. Ça, j'aimerais le comprendre. Je suis persuadée que maintenant qu'il y a une histoire partout, il faut juste la creuser.
Je devais avoir 10 ans, c'était ma cousine, elle a dit « Tu sais, ton père, il a fait de la guerre. » J'ai fait « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? » Il m'a jamais dit ça. Et c'est après qu'il m'a dit petit à petit. Même là, quand on parle de guerre, Sri Lanka, il dit pas trop de choses.
Vous avez tiré ce fil-là vers la résistance et la déportation. Et maintenant, il faut tirer les autres. Allez-y. Et puis vous êtes merveilleux. Je vais vous dire aussi qu'on a passé tous avec vous une année formidable, formidable.
Très bien, merci beaucoup. C'était bien.
Madame, les gens qui font des podcasts et tout, c'est des journalistes ?
Pas que.
Moi j'aimerais bien, parce qu'en fait j'en
ai... Et alors, t'as enregistré ta grand-mère ou pas ?
Là en fait, je vais d'abord enregistrer ma grand-mère algérienne, je crois. Parce que...
Mais t'as toujours l'enregistreur ?
Ouais. Oui. Ouais, non, vous inquiétez pas, tout est là. Mais là, j'en ai parlé à ma grand-mère algérienne, mais souvent, quand je viens chez elle, elle n'a pas trop le temps. Donc là, je vais organiser un vrai truc comme ça.
Voilà, notre série documentaire Mémoire de Buchenwald est finie. Mais maintenant, vous aussi, soyez curieuses et curieux.
C'était Mémoire de Buchenwald,
un documentaire sonore réalisé par Pauline Blanchet
et Claire Latsag.
Prise de son et interview:
Sana Abderid,
Aya Ahmad,
Dikra Arstim,
Nora Bengarali,
Amina Falkeita,
Tony Gonsalves,
Abdallah Amouda,
Bastien Card,
Grace Ligue,
Imen Louzi,
Alexa Minic,
Ahmed Mohamed,
Andrei Negutsoyou,
Brudjet Pembelen Sigani,
Kemaline Ramachandran,
Sandhya Ramamurti,
Marwa Smaili,
Tuveraka Vineswaran
et Louis Weng. Mixage, Étienne Gracianet.
Gymnastique sonore, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez entendu la deuxième partie du documentaire « Mémoire de Burenwald » de Claire Latzag. Pour écouter la première partie, rendez-vous sur canalb.fr sur la page de l'émission pour y trouver les archives. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.